Il y a beaucoup de questions qui tournent toutes, d'une certaine manière, à cette allusion que fait rapidement l'autre jour, la première négation de l'enfant. Alors, je crois qu'il faut bien distinguer l'attitude du philosophe et l'attitude du psychologue. La psychologie n'est pas philosophie. La psychologie essaie de discerner, tandis que le philosophe cherche la réalité. Ne partons pas dans une espèce de philosophie imaginaire. Nous partons des faits. Ceci est. Or, personne ne pourra discerner exactement si cette première négation relève de la grâce, du secours de Dieu, relève de la nature, relève du péché. Alors, vous allez me dire, ça relève des trois en même temps. Non! La nature ne la grâce ne coopère pas avec le péché. La grâce se sert des conséquences du péché, mais ne coopère pas. C'est quand même très différent. Au point de vue psychologique, vous ne pouvez pas discerner. Pour moi personnellement, au point de vue très délicat, au point de vue psychologique, c'est tout ce que nous constatons. C'est naturel ou ça revient du péché? Le péché originel est un péché de nature. C'est-à-dire que c'est un péché qui est contemporain de la nature. Et que vous ne pouvez pas discerner psychologiquement, si ça relève de la nature des conséquences du péché. C'est le gros point. Bon, je dis certes, moi, au point de vue de la foi, mais je sais que c'est très délicat. Je ne crois pas qu'on pourrait le discerner dans un acte. On le discernera par la finalité. C'est la finalité qui me fait discerner ce qui est naturel et ce qui est conséquence du péché. C'est la finalité. Parce que tout ce qui est naturel est ordonné à la croissance de la nature. Ce qui est pécamineux n'est pas ordonné à la croissance, est ordonné tout simplement ou à l'orgueil, ou à la vanité, ou à s'arrêter sur soi. Et la finalité n'est plus la même. La finalité du péché, c'est l'exaltation de soi la plupart du temps. Le démon nous tente, la séduction, qu'on devienne intéressant. Alors, réfléchissons tout simplement sur nos actes d'enfants. On voit très bien qu'on a fait des quantités d'actes qui étaient pour qu'on s'occupe de nous. On s'occupait très fort du petit frère ou de la petite sœur, et on nous laissait. Et alors, à ce moment-là, on a inventé quelque chose d'astucieux, n'importe quoi, quelque chose d'astucieux pour qu'on s'occupe de tout. Et quand nous sommes grands, dans pleine éducation, nous faisons nous-mêmes ce discernement. Disons, ah, tâte-toi là, ça c'est pour te rendre intéressant. Tais-toi. Allez, au boulot. Quand tu étais petit, non. Il y a un moment où on a fait le discernement. Donc c'était pour l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de sa mère, de son père, de son petit frère. Mais c'est ça très délicat. Mais moi, j'ai tout le temps, quand je parle à un psychologue, qui me donne des faits, à un moment donné, j'en voyais beaucoup de psychologues. Il y avait une petite réunion tous les 15 jours, il y avait des psychanalystes, ils étaient 6. Et on voyait, et je leur disais, c'est ça, ils étaient des psychanalystes chrétiens. Vous voyez, on a eu à Saint-Jodard une journée avec un psychologue, un freudien, pas un freudien, un psychiatre jungien. Bon, le psychiatre jungien voit tout par le point de vue de l'exemplarité. Et l'exemplarité, il est incapable, et il le dit du reste, de discerner si cette exemplarité est imaginaire ou si elle est intentionnelle, réelle. Je me souviens, quand j'étais à Fribourg, j'ai vu un dominicain qui venait du Canada pour venir consulter Jung. Il était évidemment très étonné. Alors il passait l'Albertinum, je l'ai vu. Et alors il dit, je vais aller demander à Jung si il croit en un Dieu réel. Alors je lui dis, vous pouvez y aller, il ne vous répondra pas. Il dira, c'est imaginaire. C'est imaginaire, mais quand il dit imaginaire, c'est peut-être réel. Hein. On a besoin de cette image. Et c'est peut-être réel. Alors, quand il est revenu, il dit, c'est exactement ce que j'avais dit, il n'a pas voulu sortir de là. C'est une image. Alors, Jung est contre Freud. Jung est beaucoup plus spirituel, donc un psychiatre spirituel, il reconnaît. Celui qui était venu, c'est le président de tous les Jungiens du monde et enseigne la Sorbonne. Et alors, c'était la première fois qu'il voyait un public religieux. Alors il m'a dit, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils écoutent avec beaucoup d'attention. Et son épouse était là, et son épouse m'a dit, c'est la première fois qu'il dit tout ça devant moi. Son épouse est catholique. Lui était catholique. Et pour précisément, elle a tout abandonné. Mais il reste quelque chose. Il voulait à tout prix ce... Il était très heureux de venir, d'exposer. Et il assistait à la messe. Un respect. Alors, est-ce que c'est réel? Ou est-ce que c'est simplement qu'ils vivent d'un mythe symbolique? Et ils entretiennent ce mythe symbolique entre eux. Ils se soutiennent dans le symbole. Pour que le symbole tienne, n'est-ce pas? Il faut quand même qu'il y ait des épaules réelles sur lesquelles on puisse s'appuyer. Et il est parti très content, très heureux. Parce que on l'a reçu gentiment, il n'était pas bête du tout. Il connaît son Jung parfaitement, il connaît ça. Il exerce son métier, il l'exerce, en plus de tout son travail personnel. on est dans la psychologie. C'est pas de la philosophie. C'est quand même très différent. Distinguez bien la différence entre la psychologie et la philosophie. Ne dites pas que la psychologie est de la philosophie. C'est les possibles. C'est du possible, c'est possible. Alors, vous voyez, je ne lis pas tout ce qu'on m'a donné. C'est très bien de donner. Enfin, je vous félicite de donner des questions. Ce serait très intéressant, une fois, alors, de voir la différence entre le philosophe et l'interprétation psychologique. C'est du possible. Le philosophe, le psychologue ne cherche pas les causes. Il ne cherche pas les causes. Il cherche à expliquer un comportement et de donner des, sans doute des motifs. Et alors, la répétition de la chose permet de dire, c'est plus ou moins certain, un psychologue, quand il est devant une seule chose, ne peut simplement dire, oui, il y a un corps. C'est un corps. Je reste avec un point d'interrogation. Tandis que quand ça se répète, alors on peut établir une loi. Le psychologue établit des lois. Des lois de notre comportement. Le psychologue n'atteint pas la finalité. C'est une cause, la finalité. Donc, il va essayer de mener des comportements et non pas la finalité. Donc, on est dans l'ordre du possible. C'est très intéressant, on est dans l'ordre du possible. Il ne faut pas confondre. La philosophie pratique, c'est-à-dire notre éthique, essaie de saisir des principes, la finalité. On a l'immense avantage d'avoir une finalité au point de vue chrétien qui est très précise. C'est le Christ. C'est la vision béatifique. C'est l'amitié. Au point de vue chrétien, nous avons cela. Au point de vue philosophique, on a l'amitié. Et c'est à partir de l'amitié que on essaie de voir comment on acquiert les vertus. Mais c'est pour l'amitié, parce que c'est très difficile d'être ami de quelqu'un qui n'a aucune vertu. Vous avez sûrement déjà fait l'expérience. Être l'ami, l'amitié de quelqu'un qui n'a aucune vertu. Il peut vous voler, vous ne pouvez vous savoir rien du tout. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur sa parole. Alors, vous faites ce que vous pouvez. C'est très difficile. Mais la finalité, c'est l'amitié. Et la seconde finalité, c'est la contemplation. Je suis très pauvre au point de vue philosophique. Les vertus, mais oui, c'est en fonction de l'amitié. Parce que la loi n'est pas un principe. Il faut distinguer la loi. C'est une aide pour me voir comment. La loi, ça fait des poteaux indicateurs. C'est extrêmement utile dans un sentier, quand on cherche un lieu, on a les poteaux indicateurs. Saint-Jodard, 10 km. Bon. Le suivant, Saint-Jodard, 5 km. Je suis sur la bonne route. Ça indique, et la loi indique, les causes exemplaires. Je lis simplement ça. C'est pas du tout que je tout est très intéressant, vous voyez. Mais je passerai mon cours à ça. Ça, c'est vraiment la psychologie. Et je peux répondre qu'au point de vue psychologique. Vous n'avez pas d'expérience de la vie utérine de l'enfant. Bon, vous avez des faits qui apparaissent et vous pensez peut-être vrai, mais à voir que tout ça dépend très peu de la vie utérine. Mais vous n'avez pas d'expérience. La mère a des faits, elle peut le dire, et elle voit la conférence de ses faits plus tard. Sur le moment même, elle ne voit pas. Alors, on fait des hypothèses. La première fois que l'enfant dit non, bon, il peut y avoir quelque chose de très positif, parce qu'il s'affirme. Bon, ça, c'est positif. Mais aussi, ça peut être très bien l'effet de sa petite révolte. Il y en a par-dessus la tête d'avoir sa mère qui tourne dans lui, dans elle, marque. Elle dit non. Alors, cette espèce de réaction de petite révolte, c'est pas vertueux, c'est la passion. Souvent, c'est très mêlé. C'est très significatif, hein, que la théologie parle d'un péché de nature. Normalement, le péché est personnel. Le péché de nature veut dire que c'est contemporain à ma nature humaine. Je suis né avec le péché originel. Et le péché originel a des ramifications du côté des trois concupiscences. Et ces ramifications mettent du temps quelquefois à s'éveiller. On a un sale caractère, hein. On reconnaît, on a un sale caractère. Et ce caractère mauvais va particulièrement se manifester dès qu'on est fatigué. Quand on n'est pas fatigué, on est à peu près correct. Parce qu'on se tient. Mais dès qu'on est fatigué, alors ça se manifeste. Et alors à ce moment-là, est-ce que c'est pécamineux, est-ce que c'est pas pécamineux? Conséquence du péché originel. Les conséquences du péché originel, vous comprenez, vous êtes beaucoup moins responsable. C'est évident. Vous avez eu un grand-père qui était un osseur de premier ordre. Bien les petits, les dents des petits-enfants et les petits-fils en sont agacés. Ils n'en peuvent rien. Ils n'en peuvent rien. Ils ont un mérite énorme à garder une vie chaste. Un mérite énorme. Alors que l'autre, qui a eu des grands-pères qui étaient des saints, donc, il a l'immense avantage d'être un petit-fils de saint. Alors ça va beaucoup mieux. Et il n'a pas aucune difficulté, donc très peu de difficultés. Alors, comment Dieu regarde-t-il ça? Parce que Dieu fait le discernement entre ma nature qui est créée à l'image de Dieu, la grâce qui vient perfectionner la nature et qui me lie au Christ, et puis les conséquences du péché. Et les conséquences du péché, puisque péché de nature, c'est lié à la nature, à ma nature individuelle. Parce que nous avons chacun d'entre nous une nature individuelle particulière. Et pour chacun d'entre nous, cette nature individuel se manifestera plus du côté de l'ambition, de la vanité. Il y a des gens qui, sans se percevoir, c'est la vanité tout le temps, tout le temps. Je. Puis ça peut se manifester du côté de la pureté. Et c'est très difficile à discerner ce qui est conséquence du péché, ce qui est, c'est les conséquences du péché surnaturel, péché de nature. Et je crois que c'est ça qui montre la nécessité de dépasser la psychologie, parce que la psychologie ne peut pas le voir, ça. Seule la théologie. Alors, je dis simplement ça. Lors du dernier cours, vous nous avez parlé de l'éveil de l'activité volontaire chez l'enfant. Il semble que le premier acte humain qu'oppose l'enfant soit un refus. Je ne crois pas qu'on dise le premier acte humain, comme si la nature était corrompue entièrement. Ma nature est bonne, donc le premier acte que j'ai posé n'est pas nécessairement un refus. Quand l'enfant sourit, jusqu'où c'est volontaire, puisque l'animal ne sourit jamais. Et c'est positif, c'est pas négatif, l'enfant qui sourit. Il semble que le premier acte humain que vos enfants soient refusés, ça je refuserais. Parce que la nature n'est pas entièrement corrompue par les conséquences du péché. Et surtout quand vous avez un petit enfant qui était baptisé. Et donc il a reçu une grâce spéciale pour ce qu'il y a de bon dans sa nature s'épanouisse. C'est ça la grâce du baptême. Ce refus est-il forcément une désobéissance? On ne peut pas savoir. Ou, plus exactement, l'enfant ne peut-il pas refuser quelque chose qui lui est nuisible? Peut-être. Vous voyez, c'est des possibles. Je n'ai pas dit la première fois que j'ai refusé. Je n'ai pas dit pourquoi ? Et je ne le savais peut-être pas, explicitement. J'ai tapé du pied, et zut, on a tourné le dos. Et quelquefois, ça se répète indéfiniment. On a qu'à presser sur le bouton, sur tel domaine, ou immédiatement. En refusant d'obéir aux parents, il refuse peut-être en réalité un ordre donné sans suffisamment d'amour. Tout ça est possible. Dans ce cas, le refus est-il illégitime? Dans certaines circonstances, ce refus est très légitime. Dieu n'intervient-il pas alors pour soutenir un acte humain? Cet acte humain, oui. Si cet acte humain est bon, Dieu intervient. Cet acte humain est négatif, Dieu n'intervient pas. Dieu n'intervient jamais pour une négation. Il intervient toujours pour un acte bon, finalisé. Et il est bon quand il est finalisé. Tandis que la négation ne finalise pas. La négation vous laisse un champ libre. Donc la négation a peut-être été nécessaire pour pouvoir avoir ce champ libre, c'est possible, mais la négation comme telle n'est pas un acte bon. C'est peut-être un acte nécessaire, mais pas un acte bon. C'est la différence entre les deux. D'autre part, peut-on parler de l'éveil, du d'une sensibilité spirituelle avant que l'enfant ne pose son premier acte humain. On peut parler d'un amour, sensibilité spirituelle, c'est d'un amour, d'un premier amour. L'amour est toujours premier par rapport à... Donc il y a eu comme un premier acte, bon, quand l'enfant sourit, c'est l'effet d'un amour. Les psychologues affirment que l'enfant ressent très profondément le climat d'amour ou d'angoisse dans lequel sa mère le porte après sa conception, mais après sa naissance. Le climat d'amour ou l'absence d'amour de la famille dans laquelle il est né. Oui, c'est sûr. À partir du moment où l'enfant a reçu de Dieu son âme spirituelle, vous ne savez même pas à quel moment exactement l'âme spirituelle est faite. C'est quand même très important. Mais vous ne savez pas. Il y a une loi de l'arcane, des choses qu'on ne sait pas, qui sont comme discrets. Les secrets des cœurs lui sont révélés. C'est un secret. Toute notre vie, toute la vie qu'on a eue dans le somme éternel, bon, Dieu l'a connue. Il y a des chances que Marie l'ait connue. Mais c'est réservé à Dieu. Alors, qu'on la cherche, très bien, on émet des hypothèses, et on émet des hypothèses à cause de tel ou tel acte, je comprends. On a tellement besoin de savoir, mais au fond, c'est toujours une hypothèse de recherche. À partir du moment là, ces sentiments ne sont-ils pas déjà d'un certain ordre spirituel? À partir du moment où l'enfant a reçu de Dieu son âme spirituelle. Pas tout de suite. Mon âme ne peut se développer du côté de la connaissance que par les sens. Mon âme spirituelle n'a pas d'acte spirituel avant le concours des sens. Ça, c'est une très grave question. Il semble bien. C'est la différence entre l'attitude néo-platonicienne et aristotélicienne. Pour l'attitude aristotélicienne, tout le développement de notre intelligence est dépendant de notre imagination, est dépendant de nos sens externes. Pour un platonicien, le développement de la vie, de l'intelligence, se fait avant le développement de l'imagination et des sens externes. On constate dans le développement de la philosophie de Platon que Platon, au début de sa vie, montre très nettement le développement de l'âme indépendamment de l'imagination et des sens externes. Et alors, au moment où il y a eu cette espèce de critique, Platon a donné une influence aux sensations. Peut-être sous l'influence d'Aristote. C'est impossible, puisque Aristote a vécu avec lui pendant 20 ans. Et Platon était sensible, très sensible à l'amitié, et donc à ce que l'ami pouvait dire. c'est sûr. Le premier dialogue d'Aristote qu'ils ont perdu. Mais il y a des fragments. Aristote n'aurait pas été aussi net qu'à la fin de sa vie. N'y a-t-il pas là un certain pâtir spirituel, affectif, sûrement? Ou bien les premiers mouvements passionnels de l'enfant demeurent-ils au seul niveau sensible? Vous pouvez émettre des hypothèses, et ces hypothèses viendront d'une conception particulière que vous faites de l'intelligence. Votre âme spirituelle se développe par l'intelligence. Or, nous partons toujours d'un homme qui est capable de réfléchir. J'ai commencé à faire la philosophie au moment où j'étais capable de réfléchir. Je n'ai pas commencé ma philosophie à 15 ans. Je crois que c'est rare. Aujourd'hui, on dit que certains commencent la philosophie à 15 ans, ça se peut. Parce que sûrement que l'éveil se fait toujours plus. Bientôt, on aura des philosophes de 2 ans. Mais on fait la philosophie quand on est déjà arrivé à certaines expériences, et des philosophes, des maîtres, nos professeurs, tout ça nous a aidés, ou pour les suivre, ou pour réagir contre eux. C'est au fond, tout ça sert. C'est très difficile de savoir le premier moment où vous avez pu saisir un principe. Quand avez-vous pu saisir la finalité? Quand avez-vous pu saisir que la finalité, l'amitié, est une fin? L'ami, le bonheur, la fin humaine. Et si je suis chrétien, la vie même de Dieu. Ça ne m'a pas tellement intéressé de saisir le premier moment. Ce qu'il faut surtout, c'est maintenant. Je ne vis plus de mon premier moment, mais je vis maintenant. Et enfin, c'est ça, le philosophe, lui, vit de ce jugement d'existence, ceci est maintenant. Je ne fais pas la philosophie quand j'avais 10 ans. Je reconstruis. Mais je ne sais pas philosophique, c'est mes souvenirs. Je dirais que ce n'est pas ma philosophie, tandis que je fais ma philosophie à partir de mes expériences actuelles. Oui. Et je crois que c'est là la très grosse différence, de reconstruire le passé le plus vraisemblable possible, mais je ne saisis pas de principe. Le passé reste. Surtout le passé, quand j'étais dans le sein maternel. Parce que je n'ai jamais eu ce passé lucide. Je ne l'ai jamais eu lucide. Alors, je le reconstruis dans une certaine lucidité qui provient de ma vie actuelle. Et je le reconstruis en fonction de ce que je suis maintenant. Or, cette vie ne s'est pas développée en fonction de la vie que j'ai maintenant. Parce que la vie que j'ai maintenant n'est pas ma finalité. C'est sûr. La finalité, c'est l'amitié, et c'est la vision bénéfique si je suis chrétien. Et c'est en fonction de la vision béatifique que je reconstruis ma vie. Et même quand la petite Thérèse de l'enfant Jésus écrit « Histoire d'une âme », bon, c'est « Histoire d'une âme », c'est ce qu'elle vit à ce moment-là de son passé. Et son passé, elle l'a vécu autrement, forcément. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas baser une théologie sur un saint qui raconte son histoire. Non. C'est pas théologique. Ça peut être des exemples, oui, très beaux. Mais la théologie part de ce qui est. Et la philosophie part aussi de ce qui est. C'est le réalisme théologique et le réalisme philosophique. C'est très rude, ce réalisme-là. C'est très rude, parce que on aime tous de faire son petit roman. C'est évident. Même si on ne l'écrit pas, on le fait pour soi. Or, le petit roman, c'est la reconstruction que vous faites de ce que vous êtes maintenant. Or, quand vous avez vécu ce que vous racontez, vous n'avez pas su ce que vous étiez maintenant. Et ce n'était pas votre finalité. Votre finalité, à ce moment-là, si vous étiez chrétien, c'était de voir le Christ. Parce que maintenant, on est dans les moyens. La vie qu'on mène, elle est finalisée intérieurement, mais elle n'est pas vécue parfaitement. Elle est vécue intentionnellement. Si je ne vois pas les autres choses, c'est pas du tout parce que c'est pas intéressant. Peut-être qu'une fois on pourrait discuter ça, mais bon, c'est surtout discuter à plusieurs. Je crois que ça n'avance pas beaucoup. C'est du possible, et c'est du possible. Et notre manière de considérer le possible est très différente selon nos expériences. Le possible, c'est du reconstruit. Ça n'a jamais existé. Ça existe dans mon esprit, comme possible. Et ça existe à partir de ce que je vis maintenant. Bon, c'est très, très rude, les exigences philosophiques. Parce que c'est à partir de ce qui est. Je bâtis ma philosophie et que j'essaie de comprendre ce qu'est l'homme. Et j'essaie de comprendre comment l'homme est devenu homme, comment mon intelligence qui est actuelle est devenue cette intelligence. Et alors on voit bien les influences qu'il y a eu sur le parcours. Alors, regardons le gouvernement de Dieu sur nous. Dieu est père de mon intelligence. Il est père de ma volonté. C'est évident qu'il y a un moment très important lorsqu'il y a l'éveil de mon intelligence. La première fois que j'ai saisi l'universel, la première fois que je saisis les transcendentaux, la première fois que j'ai saisi qu'il y avait dans mon intelligence deux registres, un registre univoque, et un registre analogique. Et certains n'ont jamais saisi cette distinction-là. C'est sûr. Là, dans le développement non intelligence, Dieu veille sur ce développement d'intelligence parce que c'est son bien. Qu'est-ce qui a le droit d'agir sur l'intelligence? Posez-vous la question comme ça. Qu'est-ce qui a le droit d'agir sur l'intelligence? Sur mes opinions, énormément de gens. Je dis, tout le milieu ambiant agit sur mes opinions. Et sur mes mauvaises humeurs et ma bonne humeur. Le temps qui fait. Sur mon intelligence, comme intelligence, qu'est-ce qui agit sur l'intelligence ? La réalité et Dieu. Le maître qui fait des cours n'agit qu'indirectement sur l'intelligence. Le maître ne peut pas rendre ses étudiants intelligents. Ils sont intelligents par nature. Et le maître peut développer cette intelligence en montrant les chemins à suivre, les poteaux indicateurs. Mais il n'agit pas directement sur l'intelligence. Il agit sur l'intelligence en vous donnant des images, en vous donnant des chemins. Et c'est vous qui devez exercer votre intelligence. Et exercer votre intelligence dans la recherche de la vérité. C'est pour ça que mon intelligence ne se développe pas quand je cherche à comprendre ce que le maître dit. Mon intelligence se développe quand le maître me conduit à découvrir la vérité. M'apprend à être attentif à mes expériences. C'est quand même très important, ça. Parce que ça évite de considérer que mon intelligence doit imiter l'intelligence de quelqu'un qui pour moi est un maître, de quelqu'un qui pour moi est un père. Bon, imiter l'intelligence de mon père n'est pas le but de mon intelligence. Imiter l'intelligence d'un maître n'est pas le but de mon intelligence. Mon intelligence cherche la vérité. Et la seule nourriture de l'intelligence, c'est la vérité. Le seul bien de l'intelligence, c'est la vérité. Ce n'est pas l'opinion. Quand je cherche à imiter un maître, je reste dans l'opinion. Je me sers du maître pour connaître la vérité. Ça, c'est la pauvreté du maître. Et ça, c'est très important. Dieu n'intervient pas pour que vous connaissiez les opinions. Non. Quand vous lisez le journal pour avoir une opinion, pour savoir tel ou tel événement, est-ce que Dieu intervient ? Ou est-ce qu'il vous laisse libre dans vos opinions? Alors, vous pouvez faire ça, oui, alors, c'est la question qui se pose. Hein. Alors, Dieu n'intervient pas que sur mon intelligence, il intervient aussi sur ma volonté. Ah. Si je me renseigne dans le journal parce que je dois l'être, ça fait partie de mon métier, ça fait partie de mon devoir d'État. Alors, tout ce que je fais honnêtement en vue d'accomplir ce devoir d'État, Dieu m'aide. Mais ma volonté, il aide ma volonté à l'appliquer à ça. Mais Dieu n'aide pas mon intelligence pour les opinions. Dieu n'intervient et n'aide mon intelligence que quand mon intelligence découle la vérité. Celui qui ne cherche jamais la vérité, mais Dieu n'intervient pas, il le laisse tranquille. Il interviendra sur sa volonté. C'est un saint homme, mais il n'atteint jamais la vérité. Mais c'est un saint homme. Tout ce qu'il fait, bon, il n'est pas mauvais du tout. Il est très bon. Mais il n'est pas vrai. Et on voit ça constamment dans la vie. Il y a très peu de gens qui cherchent vraiment la vérité. Ils s'arrêtent aux opinions des hommes. Parce qu'au point de vue pratique, c'est à l'égard des opinions des hommes qui est intéressant. Point de vue pratique, pratico-pratique. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est que votre intelligence progresse comme intelligence. C'est-à-dire qu'il se nourrisse de la vérité. Alors que les opinions, alors, cela doit vous aider beaucoup à comprendre le concours de Dieu par rapport à votre vie intellectuelle, par rapport à votre vie volontaire. Le concours de Dieu est beaucoup plus actuel par rapport à ma volonté, par rapport à mon intelligence, si mon intelligence cherche la vérité. Et si mon intelligence ne cherche pas la vérité et se contente de l'opinion, Dieu vous laisse tranquille. Et du reste, c'est très souvent ce qui arrive dans les personnes qui s'écartent un peu de Dieu, ne veulent plus entendre parler de Dieu. Ils ne cherchent plus la vérité. Ils en ont trop peur. Mais délibérément, en concernant sa vie. J'ai rencontré plusieurs fois, nombreuses fois, des gens qui disent « Non, je ne cherche pas la vérité. » Dieu me prend alors. Il faut avoir cette espèce de très grande limpidité d'une intelligence qui cherche vraiment la vérité. Alors là, le concours de Dieu existe. Il soutient mon intelligence, il soutient ma recherche. Oui, donc c'est la finalité. Finalité de l'intelligence, finalité de la volonté. On peut dire que Dieu n'intervient que lorsque je suis dans la finalité. C'est ça l'important. Quand vous recherchez une vérité scientifique comme vérité scientifique, pas humaine, ce n'est pas la sagesse, ce sont les sciences mathématiques. Est-ce que Dieu intervient directement pour votre intelligence mathématique? Je vous pose le problème. Il interviendra sur votre volonté pour comprendre que les mathématiques ne sont pas votre finalité. parce que c'est pas si commode que ça. Et c'est important, le choix de ma vie n'est pas dans cette recherche mathématique qui ne me conduit pas au bonheur. Donc je dois être finalisé, pas par un bonheur humain. Vous voyez, là, il faut discerner ce gouvernement divin sur nous, qui est le gouvernement d'un père.